Bonjour. Donc, en fonction des événements de décision de confinement généralisé, je me propose de vous présenter ce cours qui était censé être présenté demain à la section clinique. Et donc, je le fais maintenant, j'espère au mieux pour vous. Voilà. Donc, le mot que je vais commenter et développer, c'est le mot « néo ». Je donnerai un sous-titre « Du nouveau dans la clinique ». Alors, en effet, le mot « néo », c'est un drôle de mot, pourrait-on dire, en fonction de ce que nous a proposé Lacan quand il parlait de l'inconscient. Qu'est-ce que ce mot signifie et quelle est son origine ? Eh bien, le mot néo, c'est un mot qui vient du grec, qui veut dire néos, qui signifie jeune, qui signifie nouveau, et qui adjoint un suffixe, ou un substantif ou un adjectif, et donc qui signifie, qui indique la nouveauté. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans un premier temps. Alors, nous avons, par exemple, le néographe. Alors, qu'est-ce que c'est un néographe ? C'est un substantif qui est masculin et qui est un écrivain qui apporte une nouvelle orthographe, néographe. C'est un mot qui a été prononcé au 19e, au 20e siècle. On peut donner aussi comme autre exemple le néophobe. Le néophobe, le substantif c'est la néophobie, eh bien c'est celui qui a peur de la nouveauté, dont tout changement est perturbateur. Donc voilà, on pourrait se dire, tiens, un obsessionnel de structure obsessionnelle ne serait-il pas quelque part néophobe ? Bon, voilà, c'est une réflexion. Après nous avons le néo-jurassique par exemple. Alors le néo-jurassique, eh bien, c'est un substantif masculin également, qui est la partie supérieure, au-dessus, jeune, du système jurassique. Et puis employons un mot politique, le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est donc également une forme moderne de libéralisme qui est une intervention limitée de l'État. Alors, maintenant, je souhaiterais vous... On pourrait se poser la question, au fond, et se demander quel est le contexte et les conditions d'apparition de ce terme en psychanalyse. Pourquoi, au fond, néo ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Et en 1998, parce que c'est là où apparaît ce terme, donné par les différentes conversations du champ freudien dans les sections cliniques. Vous avez donc la conversation d'Antibes, d'Arcachon et d'Angers également. Je me référerai donc en particulier à la conversation d'Antibes dont le livre, l'ouvrage collectif de cas cliniques, porte le nom de « La psychose ordinaire ». Alors, de ce mot, peut-on en faire bon usage ? C'est cette question qui parcourt notre développement clinique. Au fond, on peut se demander, à partir d'un mot, néo, à quoi il sert et comment est-il usité ? Alors, nous avons trois termes donc qui parcourent le livre « La psychose ordinaire » et qui en constitue d'ailleurs trois chapitres. Nous avons le néo-déclenchement, la néo-conversion, le néo-transfert. Eh bien, ces trois titres regroupent tous le terme de la psychose ordinaire. Alors, on a employé le mot de néo-psychose, mais ce mot-là, dans la discussion clinique, Jacques-Alain Miller ne le souhaitait pas. Il disait « je ne l'aime pas ». Enfin, on peut se demander, au fond, pourquoi ce mot « néopsychose » n'a-t-il pas été retenu ? Il n'a pas été retenu, alors je propose une hypothèse, c'est sans doute au fond que une psychose ordinaire, en fait, est une psychose. Et que il y a une dimension peut-être sans doute trop approximative par rapport au diagnostic de psychose. Donc le mot néopsychose sans doute ne convient pas à ce titre-là, mais ça c'est mon hypothèse. Alors quand on parle de tout de néo-déclenchement, néo-transfert, néo-conversion, alors, on se réfère d'emblée au dernier renseignement de Lacan. Ce que nous étudions dans notre section clinique de cette année, le dernier renseignement de Lacan avec la logique borroméenne et le nouage donc symptomatique RSI. Nous avons vu cela dans les trois premiers cours de notre session. Alors, il n'y a pas la psychose, il y a les psychoses, c'est ce qui indique la prise en compte de la singularité des symptômes propres à chacun. Comment s'en débrouille-t-on ? Comment se débrouille chaque sujet en fonction de sa structure ? Comment, au fond, accueillir ces singularités sans reculer devant la psychose, qui est vraiment un mot de Lacan ? Et là, sans doute que l'accueil de la psychose ordinaire nous permet donc de toute cette richesse clinique que nous avons à mettre en place, à accueillir et ne pas reculer devant la psychose comme je viens de vous le dire. Alors, on sait que la psychose chez Schreberienne, qui est issue du premier temps de l'enseignement de Lacan et qui ne tient plus l'affiche actuellement et donc vient prendre le pas sur au fond les nouvelles formes de psychose. C'est-à-dire ce sont des psychoses plus modestes dans leurs manifestations symptomatiques. Donc qui nous réserve, et ça je pense que c'est le mot qui est tout à fait opportun, des surprises cliniques, mais sans doute peuvent se fondre dans une moyenne, dans une sorte de moyenne. Alors, plusieurs termes parcourent cet ouvrage qui sont même eux-mêmes assez surprenants. Alors, on entend la psychose compensée, la psychose supplémentée, les psychoses non déclenchées, des psychoses en analyse, comment ça se passe, ou des psychoses qui évoluent, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toute cette catégorisation presque, qui au fond, disons-le, n'est pas en tant que telle une catégorisation fixe, mais est plutôt une modalité pour dire ce qu'il en est des psychoses contemporaines. Donc c'est plus pour approcher une logique clinique avant tout. Alors, on pourrait dire qu'ainsi, toute une série de signes discrets gradue la clinique des psychoses. Donc c'est un système de gradation, de plus ou de moins. Ces psychoses, donc, comme je disais tout à l'heure, dites ordinaires, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que ça recouvre ? Ces néo-déclenchements, ce néo-transfert, ces néo-conversions, on entend aussi, on lit aussi, des néo-entrées, mais des branchements, des débranchements. On entend des phénomènes de corps, autour de ce qu'on appelle phi zéro. Vous avez déjà entendu parler de la signification phallique, c'est-à-dire ce qui permet, au fond, au nom du Père, de délivrer la signification. Hein. Là, en effet, c'est un principe organisateur, là, en effet, phi zéro indique l'absence de signification phallique. On peut parler selon l'expression de Lacan, d'un désordre au joint le plus intime du sentiment de la vie chez un sujet. Et là, pour repérer ce qui est justement au joint le plus intime qui permet au fond à ce que le sujet tienne dans le monde. Et là, le désordre fait que ça ne tient plus. Alors, s'ajoute à ce préfixe néo d'autres terminologies indiquées essentiellement toujours souples, nouvelles par rapport à la clinique classique du premier temps de l'enseignement de Lacan. On pourrait presque dire, au fond, vous mettez néo après ce que vous voulez et nous en retirons une logique d'approche nouvelle. Relevons alors ces termes toujours surprenants, la néo-position de l'analyste, le néo-phallus, la néo-castration, le néo-nom du père, et aussi, on continue, une néo-méthode, la néo-castration. Alors que nous enseigne-t-il ? Quelle situation clinique peut-on en faire ? Quelle utilisation peut-on en faire finalement ? Doit-on les maintenir ? Ça, c'est toute une question. Et pourquoi ? Et pour autant, ils ont fait l'objet d'un réel débat clinique pour aborder la psychose et ses nouvelles formes contemporaines. La multiplicité de ces termes indique bien qu'il s'agit d'une véritable recherche épistémologique dans le champ de la psychose. La question de fond peut alors prendre cette tournure. Qu'essaie-t-on d'épingler en parlant de psychose ordinaire ? Voilà la thèse même de la recherche. C'est-à-dire, quand la psychose ne va pas de soi, quand elle n'a pas l'air d'être une névrose, mais que finalement ça ressemble à une psychose. Il nous arrive en effet souvent d'entendre cette phrase plus qu'approximative. « Oh, j'ai une patiente qui ressemble à une psychotique, mais c'est pas tout à fait ça. » Ou « Ce n'est pas sûr qu'elle le soit. » « Je n'ai pas tranché. » Ce patient a tous les signes d'une névrose, mais pourtant, ces questions ont trait directement à notre thème de cette année. Comment s'orienter dans la clinique ? Psychose ou pas psychose ? Comment trancher quand les manifestations cliniques, le délire, les troubles du langage, les hallucinations, par exemple, ne sont pas bruyants, ne sont pas évidents et ne sont pas francs pour affirmer une psychose. Quand les pistes diagnostiques sont brouillées et nous surprennent, nous allons voir tout à l'heure cela dans des cas concrets. Alors, cela pourrait donc indiquer de l'indécision, finalement, du clinicien à trancher. Peut-être une psychose, mais pas sûre. Oui, en effet. Et c'est pour éviter cette indécision, pour trancher d'une certaine façon, parce qu'on pourrait dire qu'au fond, une psychose ordinaire est une psychose. Alors, Jacques-Alain Miller nous invite, alors justement, à la mesure d'un détective privé qui mène son enquête, à rechercher les petits indices discrets d'intensité ou de tonalité, du plus ou du moins, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, de ces personnes, de ces sujets qui viennent nous rencontrer. Cette logique de gradation renvoie aux psychoses dites type roseau. Vous voyez, le roseau, c'est souple, à contrario des psychoses franchement énoncées, franchement structurées comme telles, qui sont plutôt des psychoses dites chaînes. On entend la dimension de stabilité ou de souplesse, là, dans ces signifiants chaînes et roseaux. Alors, notons bien que le terme de psychose ordinaire soit d'usage courant aujourd'hui. On l'emploie de plus en plus. Cette recherche de 98-99, aujourd'hui nous sommes en 2020, on parle beaucoup de psychose ordinaire. En effet, elle a trouvé d'une certaine façon sa place dans le diagnostic. On entend moins ceux, par contre, de néo-déclenchement, de néo-transfert ou de néo-conversion. On préfère alors celui de débranchement. C'est-à-dire, le débranchement serait un néo-déclenchement, un vacillement de ce qui, jusqu'alors, maintenait le sujet dans le monde et qui se déconnecte alors progressivement de l'autre social, sous une forme plutôt progressive. Nous cherchons à déplier ce soir donc néo-sémantème et néo-déclenchement. On va choisir ces deux termes et il me semble aussi plus important de les exemplifier par des cas cliniques. Alors, néologisme et néo-sémantème. Qu'est-ce qu'un néo-sémantème ? Un néo-sémantème, en linguistique, c'est un terme utilisé par un certain linguiste, par exemple par certains linguistes, et entre autres, un certain Charles Bally. Un signe, alors c'est un signe exprimant une idée purement lexicale, à l'exclusion des signes grammaticaux, et susceptible de revêtir des formes variées. Alors, exemple, le radical lup, L-U-P, le mot simple loup, le mot composé loup-garou, ou l'expression fin de loup, renvoient tous à l'idée de loup. Le terme de néo-sémantème a été utilisé pour la première fois par Jacques Alain Miller dans cette conversation d'Arcachon. Alors, le néo-sémantème, alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il faut bien distinguer le néologisme qui porte, lui, sur le signifiant. C'est un mot nouveau, c'est un mot inconnu au bataillon, comme il dit, et qui appartient à la langue privée du sujet. Alors, distinguons le néologisme du néo-sémantème qui renvoie à un sens nouveau et s'applique à la signification. Et ce n'est pas un mot nouveau qui enrichit le vocabulaire, qui enrichit la langue, comme le mot célèbre, par exemple, de la psychopathologie freudienne, de la vie quotidienne, que nous connaissons tous, ce fameux mot d'esprit familionnaire à la place de familière. Lacan a beaucoup repris ce mot d'esprit en lui donnant la forme d'un paradigme même du trait d'esprit. Ce mot présentant à la fois familier et millionnaire. Alors je vous renvoie en effet à lire ce fameux trait d'esprit absolument succulent. Dans ce mot d'esprit, il s'agit quand même, dans ce mot d'esprit, il s'agit d'une mise en jeu de phénomènes liés à l'inconscient. Donc on connaît les phénomènes liés à l'inconscient, comme dans ceux des rêves, de la condensation et du déplacement. Or, dans le cas du néo-sémantème, par exemple, là, il s'agit d'un sens tout personnel, tout particulier, je dirais singulier, dont le caractère tel ne fait pas équivoque pour le locuteur. Alors que dans le trait d'esprit de la psychopathologie, donc de la vie quotidienne de Freud, cela constitue une forme toute particulière d'humour, c'est-à-dire qu'il se fonde plus souvent sur un jeu littéral, hein, familier, millionnaire, et qui fait finalement son ressort, mais qui fait aussi appel à l'autre qui le reçoit et l'accrédite. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas le cas, en effet, du néo-sémantem. Lacan évoquait, donc, dès son premier enseignement d'ailleurs, cet accent de, je cite, « cet accent de singularité dont il nous faut entendre la résonance dans le mot pour détecter le délire, un figement de l'idée dans le sémantème. » Alors, prenons un exemple issu du cas de Jean-Pierre Defieux qui se trouve donc dans la psychose ordinaire, « Je manque d'énergie ». Juste pour vous donner un, au fond le sel de l'affaire. Alors cette phrase qui est citée, donc du délire du patient, est donnée lors de la première séance et sous-tend une métaphore délirante cosmique qu'il développera peu à peu et dont Defieux sera le centre sous la figure de... Alors ça va être difficile à dire parce que ça s'écrit justement. Alors je vais vous le dire et je vais vous l'épeler. C'est défier Dieu, D-E-F, entre parenthèses I-E-R, D, fermez la parenthèse, I-E-U. On entend Defieux, défier Dieu. C'est un mot nouveau là, vous l'entendez? C'est un mot nouveau renvoyant à un registre privé sur lequel le sujet s'appuie. Pourquoi ces précisions linguistiques dans ce contexte clinique? Est-ce nouveau? On a toujours parlé des troubles du langage, par exemple. Eh bien, je proposerais qu'elles servent d'appui pour le traitement des nouvelles formes de psychose ordinaire en suivant cette balise de Lacan. Le langage n'est pas fait pour communiquer, mais pour jouir. Donc on est là dans une logique où le signifiant ne fait plus halte à la jouissance, comme dans le premier temps de l'enseignement de Lacan, mais est un appareil de jouissance, d'une certaine façon fait circuler dans ce vecteur qu'est la parole, la jouissance du sujet. C'est très important parce qu'au fond, c'est de ça dont il s'agit. C'est de partir de la question de la jouissance, de la parole, écrit A-P-A-R-O-L-E. Voilà. Alors, il s'agit bien donc de suivre les par-lettres, finalement. Là, on est dans cette nouvelle logique, on ne parle plus de sujet barré, mais on parle de par-lettres, c'est-à-dire du sujet et de son corps, dans un effort de localiser, de cerner, mais aussi de nommer cette jouissance qui constitue déjà ces troubles parfois discrets dans le langage. Nous allons aborder maintenant le passage sur le néo-déclenchement. Quelle est la nouveauté finalement introduite par le préfixe néo devant déclenchement? Nous allons illustrer l'enjeu clinique dans cette opposition du néo au classique. Et qui s'intéresse donc au mode d'installation des psychoses. Faisons un rappel. Le déclenchement d'une psychose dans la clinique structuraliste est l'effet de la mauvaise rencontre avec un père qui apparaît, nous dit Lacan, dans la question préliminaire, en opposition symbolique au sujet, ce qui provoque un déchaînement du signifiant dans le réel. Ça, c'est un rappel qui nous est tout à fait précieux du temps 1 de l'enseignement de Lacan. Par exemple, quand Schreber a été nommé président à la cour d'appel, ça a fait mauvaise rencontre pour lui et donc il s'est retrouvé avec la question de la prise de responsabilité, c'est-à-dire une responsabilité symbolique et qu'il n'a pas pu tenir par défaut du nom du père qui n'est pas inscrit. Et donc c'est cette mauvaise rencontre avec un père. Voilà, dit assez rapidement ce que je peux rapprocher. Là, par rapport à cette phrase de Lacan. Tandis que ce qu'on appelle au fond le néo-déclenchement, ce sont ceux qu'on détecte à partir de ce que je disais tout à l'heure, ces petits indices qui indiquent des débranchements progressifs de l'autre et qui produisent ce que l'on a nommé dans une conversation également, on l'a souvent employé, on a eu même une session de propédeutique à ce sujet, la déprise subjective. C'est-à-dire que le déclenchement néo ou franc est donc crucial pour indiquer le trou forclusif caractérisant de toute façon toute psychose. C'est pour ça que la psychose ordinaire est une psychose. J'insiste sur ce point parce qu'on pourrait se dire « Ah ben c'est flou, une psychose ordinaire c'est parce qu'on ne sait pas trop », mais non, pas du tout. C'est une psychose ordinaire qui a les caractéristiques d'une certaine façon à minima de certains signes dans la psychose classique, mais c'est une psychose. Ça, je crois que c'est tout à fait important de souligner ce point. Ces formes progressives se rapprochent plutôt de physéro, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à l'émergence de phénomènes de délocalisation de la jouissance, subséquent finalement à la carence de la fonction phallique. Nous allons voir un cas clinique tout à l'heure, justement, où on voit deux cas cliniques d'ailleurs, où on voit la dimension de la jouissance énigmatique sur le corps, qui percute dans le corps. Hein. A contrario, les formes brusques de déclenchement se rapprochent davantage de P0, hein, c'est-à-dire du nom du père forclos. Vous avez Phi0, la signification phallique qui est attrait plutôt au corps, et P0 qui est le nom du père, l'absence de l'opérateur paternel. Bien. Alors, le débranchement. Le débranchement, c'est une forme de déclenchement nouvellement mis en lumière et c'est un autre nom pour caractériser un néo-déclenchement. On pourrait dire alors, tout simplement, qu'un néo-déclenchement, c'est une forme de débranchement. Et là, on voit comment c'est opérant sur le plan clinique. Il ne désigne pas seulement donc le déclenchement psychotique, mais permet d'interroger comment le sujet se débranche du lien social. Ces néo-déclenchements correspondent au lâchage de ce qui tenait comme agrafe pour un sujet. Par exemple, toutes les identifications imaginaires qui le soutiennent. Par exemple, un bon père de famille, à un moment d'une rupture ou d'un divorce, se retrouve sans le soutien d'une certaine façon à cette identification-là, et donc ne voit tout le délitement de ce qui le tenait, de ce qui faisait agrafe pour lui. C'est ce qu'on appelle les identifications imaginaires. Nous nous demanderons alors ce qui faisait tenir un sujet, ce qui lâche, et comment alors, et c'est ça l'enjeu clinique au fond de l'orientation lacanienne, il peut se rebrancher par une solution qui lui sera propre. Nous n'avons pas la solution pour lui. D'une certaine façon, c'est à lui de trouver sa propre solution. Et nous le suivons juste pour justement lui permettre de construire sa solution. C'est tout un travail. Alors, voici le cas qui permet d'interroger l'existence de déclenchements où le moment fécond ne semble pas relever de la rencontre d'un père, comme je le disais tout à l'heure, tel que Lacan l'a proposé dans la question préliminaire. Le cas numéro 1, c'est la rencontre d'une jouissance énigmatique. Alors, je vais vous le lire plus facilement que de vous le dire pour que nous suivions bien la logique clinique. Alors, cette jeune femme a été rencontrée une première fois lors d'une hospitalisation à la suite d'une bouffée délirante. Il n'y avait pas d'antécédent psychiatrique notable. Il n'y avait pas été posé pour elle de déterminer les circonstances exactes de l'éclosion du délire, un délire d'influence. Elle se disait physiquement manipulée par ses voisins de cité universitaire. L'épisode psychotique débute à la suite d'une première relation sexuelle. Elle décrit une invasion du corps par une sensation étrange. L'orgasme n'est pas reconnu comme tel. Ce déclenchement ne répond pas à la configuration classique de la rencontre avec un père, mais renvoie plutôt à la rencontre avec une jouissance énigmatique par défaut de la signification phallique, je le disais tout à l'heure. Nous la nommerons donc, comme on l'avait présenté, phi zéro. Et même si la forclusion du nom du père, P0, c'est la condition de l'absence de signification phallique, ici, on pourrait dire que le mode de déclenchement relève de la rencontre avec la jouissance. Alors vous voyez que c'est ça qui est nouveau, alors que dans le déclenchement classique, ça relève de la rencontre avec le signifiant nom du père. En défaut. La discussion clinique à propos de ce cas s'engage et indique donc que les pistes peuvent être brouillées quand on a affaire plutôt à la question de la jouissance féminine. Pourquoi ne pas évoquer le lien avec l'autre jouissance, dit-on finalement, celle qui s'éprouve et ne se dit pas, et que Lacan va développer dans le séminaire Encore de 72. Cette jouissance féminine qu'un sujet peut rencontrer sans pouvoir rien en dire. Il faut trancher, alors tranchons. Ici, il s'agit plutôt de l'expérience d'un réel qui laisse ce sujet démuni dans une impossibilité de réponse symbolique. Ce que le sujet produit comme réponse, c'est une nouvelle réalité, entendez bien le mot « nouvelle », une nouvelle lecture, une manipulation corporelle, persécutive et délirante. Voilà, ce cas illustre bien finalement une nouvelle modalité de rencontre énigmatique dans la jouissance du corps, hein, et qui fait néo-déclenchement, c'est-à-dire débranchement de l'autre. Maintenant, passons au cas numéro 2. Alors, ce sont des vignettes cliniques, hein, mais qui me paraissent illustrer notre propos. Le cas numéro 2, qui est appelé « Surtout que rien ne bouge ». Alors, ces deux cas, celui de tout à l'heure et celui-là, sont extraits du livre collectif « La psychose ordinaire », avec plusieurs débats autour de ça, mais j'essaye de vous en extraire, au fond, la logique. Hein. Alors, ici, la question de la structure, dans ce cas, se posait, non à partir de ce qui était dit, mais à partir de ce qui n'était pas dit dans la cure. Voici comment pourrait se resserrer sa cure à partir d'une première identification. Je cite, « C'est quand j'ai vu le film « Les mots pour le dire », je me suis reconnue » et cela a tout déclenché, dit la patiente. Après plusieurs séances avec un psychiatre, elle demande à rencontrer une autre thérapeute, femme, et elle est dirigée vers une analyste avec le diagnostic d'hystérie, ce que cette dernière confirme, en tout cas accrédite. Voilà. Voilà, c'est un cas tout à fait intéressant parce que dans un premier temps, rien n'indiqué selon le diagnostic du psychiatre et de la thérapeute qui l'oriente vers une analyste, au fond que c'est une psychose. Hein. Donc, comment une forme d'hystérie va finalement être amenée du côté de la psychose ordinaire, voilà la question. Et voilà l'utilité clinique de cette orientation-là. Depuis 4 mois, ces séances très régulières se déroulent toujours de la même façon. Ça va ou ça ne va pas bien du tout. On entend ça souvent dans la clinique, des patients qui sont plutôt du côté du fait, F-A-I-T, de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé, de ce qu'ils ont fait dans la semaine ou pas fait dans la semaine. Et donc, au fond, elle est beaucoup plus dans la réalité et puis un silence qui ne cède uniquement que par, au fond, une intervention ou une coupure ou une question, une intervention, un bruit même. Donc, c'est vraiment quelque chose là comme ça qui tourne sur lui-même et qui n'est pas dialectisé, qui n'est pas articulé. Hein, et on entend bien ça dans ce cas, on va continuer à le présenter. La variabilité de son état est due à ses relations avec autrui. Avec sa mère, par exemple, sa vie est ponctuée de fâcheries, dit-elle, ou de bagarres, avec ou sans son entourage. Je suis mal, dit-elle, parce que je suis dans l'après-fâcherie avec ma mère. Sa relation dans le travail suit ce même mode, où elle est à la fois manipulée et manipulatrice de ses chefs et collègues, ce qu'elle leur en fait voir de toutes les couleurs, on va dire, mais aussi vis-à-vis de ses voisins qui font du bruit. Alors, entendez bien que là, il y a la dimension du bruit, de ce qu'on entend, de ce qu'on n'entend pas. Elle déménage et elle n'est... Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas assez anonyme. Il lui faut maintenir cet anonymat-là. Cela se répète aussi dans le nouveau logement avec une nouvelle voisine bruyante. « Je ne comprends pas pourquoi j'entends tout, dit-elle. Je suis trop sur le qui-vive. » Justement, qu'entend-elle ? Que n'entend-elle pas ? Il y a dans son histoire... Alors, c'est très intéressant, là, parce qu'on va avoir un éclairage de ce qui se passe pour elle. Il y a dans son histoire un événement traumatique. Elle naît 15 ans après un fils. Sa mère a eu, elle apprend que sa naissance n'a pas été désirée lorsqu'elle se pose la question de garder son propre enfant qu'elle porte. Une parole de sa mère, « Toi, tu as eu de la chance, tu as eu le choix. Tu as eu le choix » provoque finalement la décision d'un avortement. Voici l'événement traumatique. Elle vivait seule avec ses parents qui tenaient une épicerie. Un soir, elle avait 15 ans. Elle entend un bruit. Son père descend. Un grand cri surgit. Son père vient d'être assassiné par le cambrioleur. Cette période reste pour elle confuse. Elle a du mal à situer cet événement dans la langue, dans le temps. Est-ce un oubli de l'hystérique ? Un trauma qui ferait le lit de sa névrose ? Aucunement. Qu'y a-t-il là d'une possibilité d'un néo-déclenchement, c'est-à-dire d'une façon particulière d'entrer dans la psychose ? Sans doute que l'hypothèse à donner est plutôt de ce côté-là. Rien ne se dialectise en effet, rien ne bouge, cela se fige et elle poursuit sa vie de façon normale. Donc, je trouve que ce différentiel par rapport à la question du trauma est tout à fait intéressant. De montrer qu'en effet, là, il y a une forme d'arrêt sur image qui indiquerait un avant et un après. Et l'après, au fond, prend une modalité, on va dire, pseudo-normale. Du reste, elle passe un concours administratif après son bac. Elle vit son métier sans réel engagement. Elle rencontre un compagnon avec lequel elle vit encore. Elle a un fils, mais aucun désir. Elle dit, et je trouve que cette petite phrase est à toute sa pertinence clinique, « Il me manque le truc pour gérer. » Il lui manque le truc pour gérer. Voilà. Et c'est ça qui peut aussi nous indiquer que ce truc pour gérer, c'est sans doute la dimension symbolique. Elle se soutient d'un lien d'identification imaginaire à l'autre qui lui permet de vivre. Sa mère, la première thérapeute, l'analyste. Elle ne fait pas appel à une réponse du côté de l'autre en place de sujet supposé savoir dans le transfert et qui lui permettrait de se mettre au travail du déchiffrage signifiant. C'est pas ça qui caractérise la conduite de son travail à elle. Non. À partir de cette position de jouissance, justement, il faut que rien ne bouge. Hein, c'est le titre du cas qui a été donné. Il s'agira de se faire justement plutôt le réceptacle bienveillant de ces mots, M-A-U-X, de ces mots, M-O-T-S, de ces plaintes, finalement, qui serait la seule attitude qu'elle accepte pour tenir jour après jour. Voilà, donc c'est un cas qui est fort intéressant et on voit bien au fond comment ça prend un éclairage tout à fait différent à partir du deuxième temps de l'enseignement de Lacan et à partir de la question de comment on s'oriente à partir de la jouissance. Voilà. Maintenant, un cas numéro 3. C'est un cas de ma pratique que je vais vous proposer, mais je vais le resserrer aussi pour juste isoler ce que j'appelle le néo-déclenchement, enfin, ce qu'on appelle le néo-déclenchement. Et là, c'est à partir de l'expérience de grossesse. Je vais vous présenter le cas d'Iris, pour lequel l'expérience corporelle de sa grossesse a fait signe d'un néo-déclenchement. Le double. Iris est prise dans la capture imaginaire de son double, sa sœur jumelle. Cela ne concerne pas la réalité de sa gémelléité, non, mais le montage imaginaire qu'elle se construit. À partir de faits réels qu'elle a entendus dans sa naissance, des conditions de sa naissance. Les coordonnées de sa naissance, en effet, portent le sceau de sa propre disparition. Elles sont nées prématurées à 6 mois et le pronostic vital était engagé. C'est la force du désir maternel qui les a sauvées. Sa place est toujours en jeu. Ce que l'autre possède, elle en est dépossédée. Et quand l'une est dans la lumière, l'autre est dans l'ombre. Il n'y a qu'une place pour deux. Être deux s'avère relevé d'un funeste destin puisque le double, pour elle, renvoie à la mort possible de l'une ou de l'autre. De même, dans son couple, elle est fondue dans l'autre, dit-elle. Cela demeure pour Iris énigmatique et difficilement subjectivable. Un point, néo-déclenchement, expérience de la grossesse. Le réel que constitue la grossesse fait bousculer les assises symboliques et dévoile sa psychose ordinaire. Une première fausse couche la laissera dans un immense désarroi subjectif et isole des traits mortifères massifs. Une angoisse qui la submerge et vient réactiver les conditions douloureuses de sa naissance. Le vide de la signification phallique ne lui donne aucun recours et atteint son sentiment de la vie. Elle en témoigne au long de ses séances. Il est question ici de vie ou de mort dans le réel du corps. L'expérience de la grossesse se fait énigme, sensation d'étrangeté, débranchement de la scène symbolique. Avoir un corps, pour tout un chacun, n'a rien d'évidence. Mais pour Iris, il y a une forme de décalage. Il lui faut quelque chose de réel pour se rappeler que son corps est à elle, qu'il y a un corps. Son corps lui fait peur. Il lui fait des signes, et il lui faut, des signes extérieurs, visibles et réels, pour croire qu'elle est enceinte. Elle tente de se réapproprier ce corps qui lui échappe, comme si, je reprends son mot, il y a une déconnexion entre le corps et le cerveau. Rebranchement, c'est tout l'enjeu. Elle fait un avec son bébé. Amalgame sera le signifiant qui tente de dire son exigence de construire une certaine unicité du corps avec du deux. Iris tente de se réapproprier son sentiment d'existence par la grossesse. « Je refais du lien par l'expérience de la grossesse, dit-elle, qu'on soit deux dans le même corps. » Faisant allusion à la naissance à venir, elle évoque l'impossibilité même de la séparation comme l'expérience d'une perte insupportable et pronostique qu'il y aura, dit-elle, une chance sur deux pour que l'après soit difficile. Elle mise sur son travail de parole pour y remédier. Voilà, je voulais vous présenter cette vignette clinique précisément pour montrer ce qu'il en est d'une illustration, hein, de ce moment où on peut repérer quand même d'une certaine façon ce néo-déclenchement qui n'est pas franchement délirant ou voilà, mais qui touche la dimension énigmatique dans l'expérience du corps, et là en particulier à partir de la grossesse, mais aussi à partir de la question du double. Alors, conclusion, vous pourrez reprendre le thème de l'année, psychose ou pas psychose. Notre boussole clinique prend comme point de départ, vous l'avez entendu dans toutes ces illustrations, la jouissance. Nous avons affaire moins à l'opposition entre déclenchement et débranchement qu'à la question des débranchements et des rebranchements sur l'autre. Cette orientation est nouvelle, nouvelle, en ceci qu'elle nous invite au repérage du traitement de la jouissance sans établir une hiérarchisation entre les trois registres réels, symboliques, imaginaires. Alors que dans le premier temps de l'enseignement de Lacan, on avait la suprématie du symbolique et que s'il faisait défaut, la structure lâchée. Là, justement, les trois ronds sont homogènes et c'est le symptôme, vous le savez, qui fait tenir ces trois ronds. Alors ce mot, finalement, néo, même non usité, on pourrait dire qu'il indique une nouvelle logique pour traiter le réel enjeu dans le traitement des psychoses au XXIe siècle. Et ces sujets psychotiques, j'aime bien cette expression, en costume de névrose, comme l'indique Jean-Pierre Defieux. Nous constatons les nouvelles modalités contemporaines de nouage où l'Œdipe ne tient plus l'affiche et nous font entendre une nouvelle clinique pragmatique, ça c'est tout très important, c'est une clinique pragmatique, concrète, vraiment au plus près de la jouissance, c'est une clinique pragmatique, du dernier enseignement de Lacan et de cette clinique continuiste entre réel, symbolique et imaginaire, celle du nouage. Donc on verra ça dans un cours prochain sur la clinique continuiste. Et puis aussi, comment finalement se constitue un ego quand l'imaginaire fout le camp. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très dynamique, cette histoire, hein. Mais aussi celle des solutions symptomatiques sur mesure pour chaque sujet. Donc, alors que le nom du père est une solution universelle pour la névrose, là, pour les psychoses ordinaires, à l'époque où on parle de pluralisation du nom du père, chaque nouage est unique, on va dire. Alors, cette orientation consiste en se faire le destinataire du signe du patient, vous voyez, le signe qui n'est pas le signifiant, c'est dans une autre logique, et de soutenir un travail de construction et d'invention pour lui donner chance de se rebrancher sur sa solution. Au fond, néo ou pas néo, n'est-ce pas cette recherche inédite et nouvelle promue par le dernier enseignement de Lacan qui constitue aujourd'hui notre trésor clinique et importante, c'est-à-dire de pouvoir lire ce que je nomme les nouvelles formes de psychose. Voilà, je vous remercie, je m'excuse si peut-être j'ai dû lire aussi un peu le texte, en particulier pour les cas cliniques, mais j'espère que ça vous a permis d'entendre un petit peu cette logique au fond de ce que recouvre ces néo-déclenchements. Voilà, il y avait aussi la possibilité de vous développer quelque chose autour du néo-transfert, mais nous avons préféré en rester là et miser plus sur les illustrations cliniques. À bientôt, à très bientôt j'espère. Au revoir.